Radio Time.
Bienvenue sur
Fréquence à jour.
Bonjour. Grâce à notre professeur d'EPS, Madame Buss, nous avons eu l'opportunité d'interviewer un sportif exceptionnel pour lui poser quelques questions.
Écoutons tout de suite cette rencontre qui s'annonce sportive.
La rubrique sport.
La rubrique
sport active.
Bonjour Sébastien Réchon, vous êtes un ultra trailer de 53 ans. Vous avez gagné 3 fois le Tour des Glaciers. C'est une course de 450 km avec un dénivelé cumulé positif de 32 000 mètres et un temps maximum de 190 heures. Vous avez fini en 114 heures. Vous étiez aussi le dernier survivant de la Berkeley 2026. Vous êtes aussi le premier finisher de la redoutable Chartreuse Terminorum de 300 km et de 25 000 mètres à terminer en moins de 80 heures.
Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, alors je m'appelle donc Sébastien Réchon et je suis un papa de 3 enfants merveilleux. J'étais professeur de PS jusqu'à l'année dernière et je suis aventurier et ultra-trailer sur des épreuves qui sont très très longues parce que c'est ce que j'affectionne le plus. Donc moi je parcours le monde entier sur des épreuves qui vont durer 3, 4, 5, 6 jours, voire plus. Et c'est ce qui me passionne. Voilà.
Depuis quand courez-vous ?
Depuis tout petit. Moi, j'ai commencé le sport comme vous, sans doute, à l'école primaire. Je faisais du judo et de l'athlétisme, un petit peu de football quand j'étais très jeune. Et puis, pendant 15 ans, j'étais sur le stade d'athlétisme à faire du 110 mètres haies et du 400 mètres haies. Je faisais du sprint. Et puis, à l'aube de mes 30 ans, j'ai eu envie de sortir du stade et d'aller explorer la nature. Et là, je me suis mis au raid aventure multisport. Et un peu plus tard, à l'Ultra Trail. Voilà. Et donc, ça fait... J'ai l'impression que j'ai toujours fait du sport toute ma vie, puisque mes parents m'emmenaient en randonnée dès que j'ai eu 2-3 ans. On est parti. J'avais mon petit sac à dos et je parcourais déjà les montagnes à 2-3 ans.
Pourquoi avez-vous commencé à courir ?
Je crois que j'avais besoin de me dépenser. Moi, quand j'étais jeune, j'étais pas fan des jeux vidéo. Pourtant, ça commençait... J'avais toujours besoin d'être dehors, d'être avec mes amis et j'adorais faire du sport. Voilà, dès que j'avais 5 minutes, j'allais dehors et je jouais au basket, je mettais mes rollers ou j'allais courir. Et voilà, le sport, ça a toujours été un peu toute ma vie parce que c'était beaucoup de partage et beaucoup d'émotions. Et je crois que c'est ça que j'aime par-dessus tout dans le sport.
Pouvez-vous vivre de votre passion ?
Alors, donc j'étais professeur de PS et depuis l'année dernière, je me suis dit que j'allais essayer de vivre ma passion pleinement. Alors aujourd'hui, j'ai des partenaires qui m'aident un petit peu, mais ça ne suffit pas. Donc, je ne vis pas que de ma passion. J'ai aussi développé d'autres activités professionnelles. Donc aujourd'hui, je suis coach. Donc, j'entraîne des trailers. J'organise des stages de trail. Je fais de l'organisation sportive aussi. J'organise des trails. Et puis, je fais des conférences en entreprise. Donc, je vis à moitié de ma passion et puis l'autre moitié du temps, j'essaye aussi de gagner ma vie pour pouvoir payer mon loyer et puis vivre tout simplement. Quoi.
Comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, cela fait longtemps que vous courez, mais y a-t-il des moments marquants ou des courses qui vous ont plus marqué que d'autres ?
Ah là, je vais essayer de ne pas être trop long alors. Si vous voulez, moi, au début, je faisais des petits raids d'aventure à la journée, comme ici, vous savez, à Vallon-Pont-d'Arc, qui est un des plus anciens raids aventure multisport que j'ai fait une fois, notamment. Et donc, je faisais des raids comme ça à la journée, de plusieurs heures. Et puis, en 2009, j'ai mon amie Sandrine qui m'a appelé, qui m'a dit « Seb, est-ce que tu veux pas venir faire la Coupe du Monde avec nous, un grand raid ?» Et c'était un raid en France. Et qu'elle est des Alpes jusqu'à la Méditerranée. Et on est des équipes de 4 en raid aventure, autant le circuit mondial, des équipes de 4 mixtes. Et on est parti comme ça en course non-stop pendant 5 jours. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça a été pour moi une sorte de révélation. Et depuis 2009, avec mon équipe, on s'engage tous les ans sur plusieurs grands raids aventure comme ça, dans le monde entier. où on vit des émotions incroyables. Je me souviens notamment d'un raid au Brésil, au fin fond du Brésil, où on était plongé en pleine nature. À certains endroits, je pense que l'homme n'était jamais passé. C'était une véritable expédition. Puis à un moment donné, on s'est retrouvé dans les marais. Il y avait des caïmans de partout. Et il fallait qu'on avance. Il fallait qu'on avance. On était à la boussole et on a fait un azimut comme ça dans les marais. Et moi, j'étais devant mon équipe avec les bâtons. Je sondais l'eau pour faire partir les caïmans si jamais on allait marcher dessus. Et deux fois, il y a des caïmans qui sont partis à une vitesse incroyable. Ça a une explosivité dingue, ces animaux. Et ce moment-là, je m'en souviendrai toute ma vie. On était en file indienne comme ça. Et j'avais Thomas, mon ami, qui était derrière moi avec la machette. Et il y avait Nicolas, le dernier équipier qui était derrière, qui disait mais Thomas, pourquoi t'as la machette? S'il y a un caïman qui attaque Seb, eh ben, je suis là pour le sauver. Vous voyez un petit peu l'ambiance dans laquelle on était. Et voilà, ça, c'est une course qui m'a beaucoup marqué. Et puis là, récemment, c'est cette fameuse course de la Barclay que j'ai fait vivre ce matin à 80 élèves du collège qui est incroyable. Cette course est unique au monde et ça fait trois fois que j'y vais et que j'arrive pas à la terminer parce que c'est un peu ça l'idée de cette course. Voilà, une course d'orientation en solitaire, mais en même temps avec les autres camarades de jeu. Si on s'entraide pas, on peut pas réussir. Donc c'est un mélange du raid aventure et de l'ultra trail. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est cette Barclay qui me marque beaucoup.
De quelle course êtes-vous le plus fier et pourquoi ?
Le plus fier ? J'ai envie de dire... Bon, il y en a deux, là, c'est deux très récentes. Mon dernier Tour des Glaciers, qui est une course fantastique autour du Val d'Aoste en Italie, qui fait 450 km. Et cette année, au bout de 24 heures, j'étais en tête, mais j'avais des problèmes respiratoires, j'avais du mal à respirer normalement. J'avais pas de fièvre, mais voilà, j'étais en difficulté quand même respiratoire et je me suis accroché jusqu'au bout et j'ai puisé très très loin dans mon mental pour franchir la ligne d'arrivée et l'emporter. Et puis il y a une autre course cet hiver qui a été fabuleuse, c'était en Angleterre, c'est la Spine Race et il y avait des conditions apocalyptiques pendant 4 jours, donc de la neige, la tempête, etc., de la pluie. Et j'ai réussi à surmonter tous ces obstacles. Et puis j'étais 7e, et puis 6e, et puis 5e, et 4e, 3e, 2e. Et puis dans la dernière nuit, dans les derniers kilomètres, le premier était en hypothermie, il a abandonné. Et moi, j'ai continué dans la tempête. Et j'ai réussi à remporter cette course un petit peu à la surprise générale. Même moi, j'étais le premier surpris. Et voilà, j'étais très fier de cette course. Et ça sera un souvenir incroyable toute ma vie.
Quelle émotion ressentez-vous lorsque vous gagnez des courses ?
Je pleure beaucoup. Je pleure et même avant de franchir la ligne d'arrivée. Et je pleure pas que quand je gagne d'ailleurs, mais je suis quelqu'un d'assez sensible et puis j'aime bien. Enfin, moi, ça me dérange pas de pleurer, tu vois. Voilà, les émotions, faut les laisser ressortir quand elles arrivent. Il faut les accueillir. Et ouais, c'est surprenant. En même temps, des fois, c'est dur ces lignes d'arrivée parce que tu vois, je suis plongé dans des épopées incroyables pendant plusieurs jours. Je suis seul des fois avec la nature, avec les éléments et j'aime bien aussi ça, c'est ce sentiment de solitude un petit peu dans la nature où je rencontre des bouquetins, des loups, où j'observe des levées, des couchers de soleil. Et des fois, quand tu franchis une ligne d'arrivée, d'un seul coup, tu retrouves la réalité. Tu retrouves un quotidien normal et c'est un peu violent. Et souvent, j'ai beaucoup plus d'émotions avant de franchir la ligne que quand je la franchis où tout retombe. Et finalement, c'est un petit peu difficile des fois de retrouver une vie normale après la ligne d'arrivée.
Avez-vous un rituel avant chaque course ?
Pas vraiment. Non, si je vais vous surprendre, je dis pas qu'il faut le faire, attention, mais la veille des courses, j'aime bien me boire une bière avec un copain. Voilà, ça me détend et puis voilà, c'est peut-être presque mon petit rituel, voilà.
Avez-vous un régime alimentaire pour courir ?
Voilà, tu vois, je viens un peu de te répondre, hein, pas vraiment. Ce qui se passe, c'est que sur mes courses, qui durent très très longtemps, il faut pas que j'arrive trop mince. Parce que si j'ai pas des réserves un petit peu lipidiques de graisse dans mon corps, je vais pas pouvoir à un moment donné trouver l'énergie pour continuer à avancer. Si je préparais un marathon, il faudrait que je sois à 70 kilos, mon poids de forme, et puis il suffit que je mange des gels, des barres et je fais mon marathon. Mais quand tu pars 5 jours non-stop en course, il est impossible de manger ce que tu vas dépenser. L'apport alimentaire est largement insuffisant par rapport à ta dépense énergétique. Donc comment ça se passe en fait ? Eh ben, notre corps, qui est incroyable, va déstocker toute l'énergie que tu as stockée sous forme de lipides et va le transformer en énergie, ce qui va me permettre de continuer à avancer. Donc avant mes courses, je suis assez gourmand. Parce que j'essaye d'avoir 2-3 kilos de trop avant mes courses pour pouvoir les terminer et pas être, de ne pas manger mes muscles à la fin pour trouver de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, c'est très important. Donc, du coup, c'est très confortable pour moi. Je ne vais pas me priver d'une bonne tarte à la framboise, à la chantilly. Au contraire, je vais peut-être en prendre 2, tu vois, avant mes courses parce que c'est des courses un petit peu hors normes et qui nécessitent que j'ai des réserves alimentaires.
À quoi pensez-vous quand vous courez ?
Ça peut être long. Alors, des fois, je pense à rien. Des fois, pendant 3-4 heures, j'ai mon cerveau qui est en pause et je suis juste en harmonie dans la nature, comme si j'étais une partie des éléments naturels. Et puis, je me déplace comme ça. Parfois, je pense à mes enfants, à ceux que j'aime, à ma chérie. Je vais chanter quand je m'endors, parce que forcément, je dors très, très peu dans mes courses. Et il y a des moments de lassitude ou des moments de somnolence. Donc là, je vais me mettre à chanter Jacques Brel ou du rap. Ou voilà, j'aime bien chanter ou écouter de la musique. Des fois, je me fais des auto-interviews comme là, sauf que là, c'est moi qui me pose des questions. Alors Seb, comment tu vas ? Ah bah là, je suis un peu fatigué, hein, y en a marre, qu'est-ce que je fous là, etc. Vous voyez, je me fais des auto-interviews et ça me permet de passer le temps. Voilà, en fait, sur 120 heures de course, il y a des tas de phases différentes. Et c'est ça qui est agréable aussi.
Est-ce que vous êtes déjà blessé dans une course ?
Ben, j'ai beaucoup de chance. Je crois que mes parents m'ont doté d'un patrimoine génétique solide. Donc, j'ai déjà eu des blessures musculaires, des petites tendinites, des choses comme ça. Mais ça ne m'a jamais empêché de franchir la ligne d'arrivée. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est une de mes forces, c'est à gérer la douleur, justement, à l'anesthésier en quelque sorte, même sans prendre des médicaments. Mais j'arrive à dompter mes douleurs et à continuer à avancer. Et je pense que ça, on a tous le potentiel. Sauf qu'il faut avoir expérimenté ça pour pouvoir se l'appliquer à soi-même. On n'est pas obligé de prendre un Doliprane dès qu'on a mal quelque part. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre de temps en temps, mais en tout cas, on peut gérer aussi, nous, les douleurs. Et c'est, voilà, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des années de course à travers le monde. Parce que quand on est plongé au milieu de nulle part, on n'a pas forcément sa trousse à pharmacie. En tout cas, on n'a pas forcément le bon remède à ce qui ne va pas. Donc, il faut gérer mentalement. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on est tous capables de faire, en fait. Tous.
Quel est votre VMA et pouvez-vous expliquer ce que cela signifie à nos auditeurs et auditrices ?
Alors la vitesse maximale aérobie, c'est un petit peu c'est la vitesse à laquelle on va consommer le plus d'oxygène pour avancer. On parle de VMA, on parle de VO2 max aussi, qui est la consommation d'oxygène maximum qu'on peut avoir. On n'est pas tous égaux sur Terre à la naissance. Certains ont une VO2 max et une VMA extrêmement élevées. Je pense à Kylian Jornet par exemple. Et moi, là-dessus, je n'ai pas été forcément très gâté à la naissance. J'ai une VO2 max de 53 millilitres d'oxygène, etc., par kilo et par minute. Et c'est pas fantastique. Voilà, c'est moyen. Par contre, j'ai développé d'autres qualités qui sont, par exemple, mentales. Puisque tu parlais de vitesse maximale aérobie, quand j'étais jeune, ma VMA, c'était 19 km/h. Bon, il faut savoir que les meilleurs marathoniens, ils sont à 22 ou 23 de VMA, donc bien, bien supérieur à la mienne. Mais si je devais faire un test de VMA aujourd'hui, je pense que je serais plus à 15 ou 16 km/h. Avec l'âge, on perd beaucoup en vitesse maximum, mais ce qui n'est pas très gênant sur mes courses de plusieurs jours, en fait.
Votre quotidien a-t-il changé depuis vos débuts dans la course ?
Mon quotidien, alors depuis un an, il a changé. Parce qu'avant, j'étais professeur d'EPS, donc mon rythme quotidien était marqué par mes cours, par mes élèves. Alors j'essayais de m'entraîner comme je pouvais. Le matin, en allant au collège, j'y allais à vélo ou en courant. Et puis, dès que j'avais un petit peu de liberté, j'allais m'entraîner sur le Mont Ventoux, notamment à côté de chez moi. Et puis, depuis un an, en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je suis libre de mon emploi du temps chaque jour. J'ai aucune contrainte, j'ai pas des élèves à récupérer absolument à 8h ou à 10h. Donc en fait, depuis que je suis entre guillemets passé un peu professionnel de la course à pied, j'ai cette chance de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je l'entends et d'aller m'entraîner à l'heure que je souhaite. Alors j'ai quelques contraintes forcément, hein, quand je dois faire de l'organisation ou du coaching, ben, faut que je le casse dans ma journée, mais en fait voilà, j'organise ma journée comme je veux et voilà, c'est le vrai changement dans ma vie récemment et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, même si les élèves me manquent. Et là, je l'ai vu ce matin, j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver des élèves entre guillemets en cours de PS. Mais voilà, c'est dans la vie, il faut aussi changer et je suis content de ce changement.
Quel conseil pourriez-vous donner aux coureurs ou aux jeunes coureurs ?
Ouais, j'en aurais beaucoup de conseils à donner. Aux jeunes, j'ai envie de dire même qu'ils soient coureurs, qu'ils soient artistes, qu'ils soient musiciens. Le conseil que je voudrais donner, c'est d'avoir confiance. Il faut avoir confiance en vous, il faut oser. Ne vous fixez pas de limites, ne vous mettez pas des freins dans votre vie. Si vous avez envie de quelque chose, testez, essayez, foncez. Et en course à pied, c'est la même chose. Si vous avez envie, donnez-vous les moyens de réussir vos objectifs, mais en tout cas, ne vous interdisez pas d'avoir des objectifs et de prendre le départ. Et puis, il faut toujours essayer, en tout cas. Même si on est... Il faut essayer. Et quand on échoue et qu'on a tout donné, c'est pas grave. On a essayé. Donc voilà, moi j'ai envie de dire à tous les jeunes, osez, si vous avez des rêves, eh ben, il faut essayer de les réaliser. Et puis quand on est passionné, eh ben, souvent on réalise ses rêves parce qu'on met ce qu'il faut en place pour arriver à son but. Donc ne tombez pas dans des routines, ne faites pas la même chose tous les jours, essayez d'évoluer, d'avoir des objectifs, et puis mettez tout ce que vous pouvez pour, en place pour atteindre ces objectifs.
C'est un très beau message. Merci et au revoir, Monsieur Richon.
Merci.
Et au revoir.
Merci. Et ben merci à vous, c'était un grand plaisir d'échanger.
C'était Radio Time,
Fréquence Ajoron,
présenté par les élèves
du collège de Vallon-Pont-d'Arc.